RFI, grand reportage.
Xavier Besson.
C'est l'une des conséquences, peut-être un peu plus inattendues, de l'ouragan Katrina qui a balayé la Nouvelle-Orléans aux États-Unis il y a maintenant 10 ans. Des milliers de musiciens ont dû quitter la ville et c'est un des berceaux du jazz qui a failli disparaître. Depuis, 10 ans après, la plupart d'entre eux sont revenus, de nouveaux sont arrivés. Et malgré les épreuves, comme on le dit à la Nouvelle-Orléans depuis le temps où la ville était française, les bons temps continuent à rouler. Grand reportage de Grégory Kless.
Un festival de trompettes, de trombones et de saxophones. Ce son inimitable, c'est celui de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz et racine commune de toutes les musiques américaines, du blues au rock'n'roll. Tom Piazza maîtrise plutôt bien le sujet, il a écrit plusieurs livres sur Katrina et la Nouvelle-Orléans, sa ville natale. Il a également collaboré à l'écriture de quelques épisodes de la série télévisée Trémé, qui raconte l'histoire de la ville après Katrina, du point de vue des musiciens.
La musique a toujours tenu une place centrale dans la vie des gens de la Nouvelle-Orléans. Et elle est tellement riche, elle l'a toujours été. Nous avons eu tous ces grands musiciens, Fats Domino, Professeur Longhair, Dr. John ou encore Louis Armstrong.
À la Nouvelle-Orléans, la musique est tellement importante qu'elle rythme chaque moment de la vie jusqu'à la mort.
Mais au-delà de la musique populaire sur laquelle les gens dansent, il y a aussi toute la musique qui est jouée pour certaines occasions. Par exemple, lors des enterrements à la Nouvelle-Orléans. Les enterrements sont marqués par la musique. Et pas de la musique triste qu'on pourrait imaginer à un enterrement, mais de la musique gaie qui célèbre la vie. Après que l'orchestre ait joué un hymne funèbre ou deux, ils vont jouer des morceaux très joyeux, avec des centaines de personnes suivant le cortège et dansant. Certains pleurent, certains rient. Beaucoup connaissaient le défunt, beaucoup ne le connaissaient même pas. Ça peut paraître bizarre que quelqu'un qui ne connaissait pas le mort s'invite à son enterrement. Mais quand le cortège quitte l'église, le but du rituel, ce n'est pas seulement de soutenir la famille dans son deuil, c'est aussi de réaffirmer un certain sens de la communauté et d'un destin commun.
The point of the ritual is to reaffirm a sense of community and communal fate.
Un destin commun qui a tourné il y a 10 ans à la tragédie. Après que les digues censées protéger la ville ont cédé, la Nouvelle-Orléans a presque entièrement été submergée. La moitié de la population de la ville a été contrainte à l'exil, parmi lesquels des milliers de musiciens, le cœur battant de la Nouvelle-Orléans. La salle est pleine au bon temps roulé pour le concert des Soul Rebels. Ce bar situé sur Magazine Street tire son nom de l'expression « laisser les bons temps rouler » qui remonte à l'époque où la ville était française. Elle est à la fois la devise de la Nouvelle-Orléans et une certaine philosophie de vie. C'est donc ici, dans ce bar, que nous retrouvons Arion Williams, saxophoniste et leader des Soul Rebels. C'est ici qu'il a joué son premier concert après Katrina, et comme beaucoup d'autres il y a 10 ans, il a dû quitter sa maison dans la précipitation.
Nous sommes partis à Houston, au Texas, avant que l'ouragan arrive, et on a passé 2 ou 3 semaines à l'hôtel là-bas. C'était incroyable, car on regardait la télé et on voyait des images de canals submergés, et on se disait, ça ne peut pas être réel, on croyait véritablement être dans un film.
Et le retour tant attendu à la maison n'a pas été une partie de plaisir non plus.
Quand on est rentré à la maison, il y avait de la boue partout, des voitures et des réfrigérateurs balancés à tous les coins de la rue. Et en ville, ici, c'était la nuit noire. Il n'y avait pas d'éclairage dans les rues, aucun magasin n'était ouvert. Ce qu'on avait pu connaître de la civilisation avait disparu. Ça brise le cœur, car on se dit, ma ville ne sera plus jamais la même.
Exilé et sans ressources financières, le plus urgent pour les Soul Rebels, c'était de reprendre les concerts.
C'était important de remonter sur scène pour le public, mais aussi pour nous, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas ce qui allait se passer pour le groupe. Tout le monde vivait dans des endroits différents. On se demandait comment on allait continuer à pouvoir se voir, à jouer ensemble. Ce concert, c'était donc un soulagement pour le public, mais aussi pour nous, car c'était bon de pouvoir rejouer, de pouvoir s'amuser à nouveau, et que tout le monde s'amuse, oublie tous ses problèmes et toutes les épreuves traversées, juste pour un moment.
Just for a moment.
You're traveling on American roots, from crossroads to crosstown, from the bayous to the beltways.
Nick Spitzer est l'animateur de l'émission musicale American Roots, qui est diffusée à travers tous les États-Unis. Il est aussi professeur d'anthropologie à l'université de Tulane, spécialiste de la musique américaine et de la culture du sud des États-Unis.
And I argued strongly that music was really the only way the city would ever recover.
J'ai toujours été convaincu que la musique était le seul moyen de remettre la ville sur pied. Le retour de la musique, ça signifiait le retour des familles, la réouverture des clubs, le retour de la joie de vivre.
Joie de vivre and all these kinds of things.
Beaucoup de gens en Amérique pensaient que nous ne devions pas célébrer Mardi Gras la première année. Des esprits puritains disaient qu'on devait se concentrer sur la reconstruction. Mais le retour du plaisir, du jeu, du carnaval, c'était travailler à la reconstruction.
The return of carnival.
Here comes the big chief, the big chief. The yellow Pocahontas, the pretty monogram hunters, and they don't bow down. On nobody's ground.
Nobody's ground.
Oh, how we love Jay. You call us Indian red.
The Mardi Gras Indians.
Les Indiens du Mardi Gras ont été parmi les premiers à revenir pour le carnaval en 2006. Ça coûte tellement d'argent et d'efforts de fabriquer ces costumes. Ils ont fait la une du New York Times et plus important encore, ils ont fait la une du Times Picayune, le journal local qui, historiquement, n'accordait pas beaucoup d'importance au carnaval.
L'amour pour la musique et la culture de la Nouvelle-Orléans était donc toujours intact. Mais de nombreux musiciens, ayant tout perdu, manquaient encore à l'appel. Branford Marsalis et Harry Connick Jr., des artistes originaires de la Nouvelle-Orléans et de renommée internationale, ont alors décidé d'agir pour les faire revenir. Ils ont créé un village de musiciens à l'est de la ville avec l'ONG Habitat for Humanity, dont nous parle son directeur exécutif, Jim Pate.
Harry and Branford were very much afraid that we were going to lose.
Harry et Branford craignaient beaucoup que l'on perde notre patrimoine musical. Il y avait eu tant de destruction, le prix des loyers avait atteint des montants astronomiques. Nous avons alors pensé à un village. Il y a 72 maisons individuelles dans le village des musiciens, dont 95% sont occupées par des musiciens. Il y a aussi le centre Ellis Marsalis pour la musique, qui est surtout un endroit où on enseigne, mais qui dispose aussi d'une scène de concert de toute beauté et d'un studio d'enregistrement.
Avec ses jolies maisons colorées construites le long de rues tranquilles, le village des musiciens est un havre de paix dans un quartier qui, lui, ne l'a pas toujours été. Et ici, tout a été prévu dans les moindres détails pour favoriser la transmission du savoir musical.
Le R&B, le jazz ou le funk s'apprennent sur les genoux et les coudes d'autres musiciens plus âgés, plus expérimentés. Et c'était important de pouvoir maintenir cette tradition. C'est pourquoi toutes les maisons du village ont un porche.
Permettre aux musiciens d'accéder à la propriété à un prix abordable en les faisant participer à la construction de leur maison, c'est le concept de ce projet qui a très vite trouvé preneur. La chanteuse Margie Perez a ainsi tout perdu lorsque son quartier a été submergé par les eaux. Mais c'est l'une des premières à s'être installée dans le village. Un moment décisif dans sa carrière, dans lequel elle a même puisé une nouvelle source de motivation professionnelle.
Quand j'ai obtenu un prêt immobilier et cette maison, je me suis dit que j'allais devoir vraiment m'affirmer dans ma carrière de musicienne. Pour que je puisse continuer à être musicienne tout en étant propriétaire, j'allais devoir travailler dur. Ça a pris du temps, mais maintenant je vis dans cette maison et je compte y rester pour le restant de mes jours.
Son voisin, Edward Lee, a lui aussi perdu son logement au cours de la catastrophe. Il joue du sousaphone, ou comme le chanterait Bobby Lapointe, de l'hélicon, avec les Soul Rebels.
On vit dans une zone où tout le monde fait la même chose. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit où je pourrais vivre. Il y a tout type de musiciens, de tous les genres, qui vivent tous au même endroit. C'est un grand melting pot, et c'est l'un des grands avantages de vivre ici.
Ici, paradoxalement, Katrina avait eu un effet positif sur la musique de la Nouvelle-Orléans. Jen Ramsey, fondatrice et rédactrice en chef du magazine musical Offbeat, n'est pas loin de le penser.
C'était à la fois une malédiction et une bénédiction, car cette horrible tragédie est arrivée, mais elle a mis en lumière la musique d'ici. Sans Katrina, nous n'aurions pas eu un tel intérêt dans les médias ces 10 dernières années. Il n'y aurait pas eu de série comme Tremé sur HBO qui met en scène les musiciens de la Nouvelle-Orléans.
Shown a lot of attention on the city's music and musicians.
Now won't you come along with me? Way down that Mississippi. We'll take a trip to the land of ease. Float down the river down to New Orleans.
John Boutet est bien placé pour en parler. Le chanteur à la voix de velours apparaît plusieurs fois au cours des 3 saisons de la série Tremé.
La série Trem a apporté énormément, notamment aux musiciens en les mettant dans la lumière. Alors qu'on était menacés d'extinction, nous perdions des institutions, comme certains groupes qui jouaient ensemble depuis des années, des fanfares d'école, Preservation Hall. Mais le monde est venu à notre aide.
How nice it seems, what it really means. Yes, sirree, oh, I'm glad. To me seems like a lifetime.
Ces 10 années, j'ai l'impression qu'elles ont duré une vie. Il s'est passé tellement de choses positives et négatives dans ma belle ville. On est toujours là et on fait toujours de la musique.
And we're still here and we're still making music.
Ambiance survoltée au Superdome, le festival Essence qui attire chaque année plus de 500 000 personnes, bat son plein. La star locale Troy Andrews, plus connue sous le nom de Trombone Shorty, vient d'entrer en scène.
J'ai l'impression que le public apprécie davantage la musique aujourd'hui qu'avant l'ouragan, car ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient la trouver nulle part ailleurs. Avant, les gens allaient à New York ou Los Angeles pour la musique. Maintenant, ils viennent ici et veulent faire partie de la scène musicale. C'est un soutien extraordinaire pour la ville. Ça montre que nous sommes toujours vivants et en pleine forme.
No doubt we're still alive and kicking.
10 ans après avoir été ravagée par l'ouragan Katrina, la scène musicale est donc plus vivante que jamais à la Nouvelle-Orléans. Un sursaut qui peut paraître inattendu, mais qui n'a en fait rien d'étonnant d'après Roger Lewis, saxophoniste de légende et fondateur du Dirty Dozen Brass Band.
La musique, c'est ça, c'est comme un grand gumbo musical. Et c'est tellement bon, ton corps se sent bien, ça lui fait faire des choses qu'il n'a jamais fait avant. Tu veux remuer. C'est ça, l'esprit de la musique et l'esprit de la Nouvelle-Orléans.
La musique de la Nouvelle-Orléans à l'épreuve de Katrina, un grand reportage de Grégory Pless, réalisation Eva Moschinski, RFI.
Grégory Pless, bonjour.
Bonjour Xavier.
Vous venez de passer quelques semaines à la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de votre reportage ?
Mais écoutez, j'ai rencontré beaucoup de gens au cours de ce reportage, des musiciens, des propriétaires de clubs, des professeurs d'université, mais aussi de simples habitants. Et vraiment, ce qui m'a frappé, c'est que tous partagent cette fierté et cet attachement à leur patrimoine, et plus particulièrement à leur patrimoine musical, qui, il est vrai, est d'une indéniable richesse. On pense au jazz traditionnel, bien sûr, mais ces derniers temps, il y a de plus en plus de jeunes groupes qui ajoutent du funk ou du hip-hop dans cette musique traditionnelle. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le Zydeco, la musique des Cajuns, qui est chantée en français et qui connaît toujours un très grand succès aujourd'hui. Et puis, il y a cette capacité à rebondir, à passer les obstacles qui se présentent et à aller de l'avant, qui, au-delà de la Nouvelle-Orléans, est assez courante aux États-Unis. Et ça explique en grande partie comment, en seulement 10 ans, la ville s'est remise sur pied après une catastrophe comme Katrina. Et à voir l'expression avec laquelle les gens vous parlent ici de la musique, vous pouvez assez facilement comprendre le rôle qu'elle a pu jouer au cours de ce processus.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Grégory, la Nouvelle-Orléans peut être considérée comme un pays de cocagne pour les musiciens ?
Alors d'abord, et c'est déjà le cas depuis près d'un siècle, la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment le Graal de la musique aux États-Unis, et à ce titre, elle attire déjà depuis très longtemps des musiciens venus du monde entier qui viennent pour apprendre le style et les techniques de la Nouvelle-Orléans. Et puis sur un plan plus pratique, le coût de la vie est relativement abordable par rapport à d'autres grandes villes américaines. Il y a aussi énormément d'endroits où jouer de la musique, et encore plus de touristes qui viennent ici exprès chaque année pour en écouter. Alors, il y a aussi beaucoup de concurrence et les cachets, surtout quand on joue dans un groupe avec beaucoup de musiciens, peuvent parfois être assez minces. Donc dans l'ensemble, la plupart des musiciens vivent plutôt humblement. Ceci dit, il y a quelques musiciens originaires de la Nouvelle-Orléans qui connaissent vraiment un succès phénoménal. On pense à Trombone Shorty, qu'on entend dans le reportage, mais il y a aussi Winton, Branford ou Ellis Marsalis, parce que oui, ici, la musique, c'est aussi une affaire de dynastie familiale. On peut aussi encore citer Alain Toussaint ou la chanteuse Irma Thomas qui se produisent partout dans le monde.
Vous dressez un portrait, Grégory, qui est assez élogieux de la Nouvelle-Orléans. Seulement, tout le monde n'a pas la possibilité ou les moyens de se rendre sur place. Où peut-on goûter à cette musique ailleurs et notamment à Paris ?
Alors oui, ça tombe bien, il y en a un peu pour tous les goûts. On commence à la Philharmonie de Paris le 9 septembre avec Leila Makkala. Cette jeune artiste de la Nouvelle-Orléans est d'origine haïtienne, elle chante en anglais et en créole, elle joue du violoncelle mais aussi du banjo, et elle est en première partie du musicien malien Balaké Sissoko avec Vincent Segal, et elle seule, elle vaut vraiment le détour. Ensuite, on peut aussi aller à l'Olympia le 23 septembre pour voir Didi Bridgewater, la grande chanteuse, a enregistré un album à la Nouvelle-Orléans, et elle sera sur scène avec Irvin Mayfield Jr. et le New Orleans Jazz Orchestra. Et enfin, pour finir, on retrouve Trombone Shorty, qu'on entend aussi dans le reportage. Il accompagne pendant leur tournée européenne les rockers des Foo Fighters, et ils seront le 16 novembre au Palais Omnisports de Paris-Bercy.
Grégory Pless, merci d'avoir été avec nous. Votre grand reportage, la musique de la Nouvelle-Orléans à l'épreuve de Katrina. On peut le réécouter, le retrouver sur notre site internet rfi.fr.
La sélection du mois.